notre salut. Il y va de notre salut. C'est-à-dire qu'on a un ennemi, ne soyons pas laxistes, parce que cet ennemi, lui, il a fait le serment et Allah Ta'ala l'a autorisé. Il lui a dit, tu fais partie de ceux à qui je donne un répit, un délai, c'est dans le Coran. Donc si tu es laxiste et tu oublies cet ennemi ou tu te fais distraire ou autre, il y va de ton salut. Personne ne peut dire le contraire. Et personne faisant partie des gens de science, etc., vous dira le contraire. Puisque dire le contraire de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, « Innahu lakum aduwwum mubin » Il est pour vous certes un ennemi. Déclaré, donc faisons tous ensemble, hein, tous, nous tous, faisons très attention, soyons vigilants. Croyez-moi, Inch'Allah, pour ceux qui vont rester à l'institut, qui vont s'accrocher, qui vont rester et qui vont profiter, vous verrez, vous apprendrez à me connaître. J'insiste jamais sur quelque chose si c'est pas, s'il y va pas de ton salut. Jamais j'insisterai sur quelque chose parce que je suis quelqu'un de pudique, qui a honte, qui n'aime pas peser sur les autres, qui n'aime pas déranger les autres, etc. Donc si vraiment j'insiste sur quelque chose, j'aime pas gêner les autres, être lourd pour les autres, si j'insiste, c'est que vraiment, c'est primordial pour vous. Si le prophète, dans sa sunna, il y a des invocations, dans le Coran, il y a des invocations, dans la sunna, Allah Ta'ala nous a prévenu, le prophète, en cette salle, il nous a prévenu, c'est pas pour qu'on soit laxiste, hein. On regrettera, hein. On regrettera. Taïb. On regrettera si on est tombé dans les stratagèmes du shaitan. Alors, je vous le dis, comme l'ont dit les grands savants, son premier stratagème, c'est de vous sortir de la science religieuse. Et après, il fera ce qu'il veut de vous. Sauf par l'autorisation d'Allah. De vous sortir des sciences religieuses, il va tout faire par n'importe quel stratagème. Et quand il vous a sorti, c'est bon, vous redevenez quelqu'un qu'on peut manipuler très facilement. Il y a des textes qui vont dans le sens de un homme prévenu en vaut deux. Il y a des textes, c'est pas qu'un proverbe, hein, chez les non-musulmans, chez les kofars, mais on a des textes qui viennent dans le sens, dans ce sens, un homme prévenu en vaut deux. Taïb, tamam. Donc si on ne te prévient pas, tu vas être une proie extrêmement facile. Combien d'étudiants, les pauvres, ils n'ont pas été prévenus sur ces choses-là. Ils n'ont pas été prévenus. Et puis, ils avaient une motivation quand même à la science, etc. Nous-mêmes, hein. Nous-mêmes, hein. Pourquoi pensez-vous... Nous, si c'était une question de volonté, on aurait aimé, à l'Institut de Cheikh Mokbel, on aurait aimé de rester 10 ans, 20 ans, mourir là-bas. Pourquoi, à votre avis, on n'est pas resté autant? Vous demandez à n'importe quel étudiant, ancien étudiant, pourquoi t'es resté 2 ans, pourquoi t'es resté 5 ans, pourquoi t'es resté 6 mois, pourquoi t'es... parce qu'à un moment, Shaitan, il m'a eu, tout simplement. C'est parce qu'à un moment, Shaitan, il nous a eu, c'est tout. n'y a pas d'autre solution. Hein. Par l'autorisation d'Allah, bien sûr. Mais voilà pourquoi vous avez cette chance aujourd'hui. Et le terme chance, on peut l'utiliser dans certains contextes. Vous avez cette chance aujourd'hui. Subhanallah. Vous avez cette chance aujourd'hui. On vous prévient. Nous, on n'a même pas été prévenus. On savait comme ça. Jusqu'au jour où ça te tombe dessus et tu te fais éjecter. Et c'est des années après, tu dis comment il m'avait eu le shaitan, oh là là. Alors en parlant de gagner des années, voilà encore une fois, on vous fait gagner du temps. Y a des gens qui te le diront, ils n'en parleront jamais. Étudie, étudie, viens étudie avec nous, viens, viens, viens. Et ils te diront pas, attention, dès que tu vas étudier, ça va te tomber dessus. Tout va être mis en place pour que tu lâches. Tout va être mis en place pour que tu lâches. Donc, moi, j'aurais bien été content à l'époque d'avoir un grand frère comme ça, grand frère ou père, hein, ça va dépendre de votre âge. Comme le disent les savants, et Cheikh Al-Othaymin, ton enseignant, c'est ton père dans la science. Les gens, ils oublient ça. Il y a énormément de gens qui oublient ça. Wallahi, ça va peut-être vous étonner, mais même des choses qui nous étonnent, ça signifie pas qu'elles sont pas haq, véridiques. Peut-être que, comme l'ont dit les savants, ton enseignant, qui est ton père dans la science, il te donne plus que tes propres parents en réalité. Attention, on ne dit pas qu'il a plus de droits. Le droit des parents, c'est les parents. Mais au niveau religieux, etc., au niveau pour aller au paradis, etc., en ce qui concerne le contenu, il te donne plus. Il te donne plus. Donc, il faut avoir un certain respect, une certaine. Faut lui donner son droit, penser du bien de lui. Surtout, ça c'est important. Il faut penser du bien de celui qui t'enseigne. On ne vient pas étudier avec quelqu'un si on n'a pas. Ça, c'est dans la parure de l'étudiant. Vous pouvez aller écouter les cours sur YouTube. La parure de l'étudiant. Cheikh Al-Othaymin, il dit à un moment, ce n'est pas possible que tu étudies avec une personne, avec un cheikh, si tu as des doutes sur lui. C'est pas possible. Il faut penser du bien. Il faut penser du bien. À partir du moment où une personne te dit, Allah a dit, son prophète a dit, les savants ont dit, les savants aujourd'hui, tout le monde connaît les savants de la Sunna. Celui qui connaît pas, il va sur YouTube, il tape grand savant. Et tu verras, vous verrez qui va sortir. Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, les grands savants de notre époque, El Albani, Cheikh Mokbel. Les grands savants aujourd'hui, ce sont eux. Personne ne peut dire le contraire. À partir de ce moment-là, quand tu as compris qui sont les grands savants, et c'est très facile si tu cherches la vérité, la deuxième démarche que tu vas faire, une fois que tu as compris hein, qui sont les savants de notre époque, tu vas aller dans le Coran et tu vas chercher Allah Ta'ala, il dit quoi sur les savants? Et tu vas voir qu'Allah Ta'ala, il dit que ce sont les héritiers des prophètes, ce sont eux qu'il faut suivre. À partir de ce moment-là, quand tu as une personne qui t'enseigne, qui fait la da'wah, qui te prêche à l'islam, et tout son contenu s'est tiré des grands savants, ceux qui sont mentionnés dans le Coran, sans aucun doute, pour les gens de la Sunna, Si on a des doutes, faut demander à Allah, faut revoir toute notre intention, faut tout revoir. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas douter. Et on va dans le Coran et on verra que Allah Ta'ala il nous dit, alors ça c'est le prophète qui nous dit plutôt, le prophète Assad Salem qui nous dit que les savants sont les héritiers du prophète. Mais également, Allah Ta'ala nous dit, attention, Allah Ta'ala, dans le Coran, il a pris à témoin Allah Ta'ala, dans le Coran, il a pris Allah Ta'ala, il a pris à témoin les anges. Et les gens de science, les ulama, il les a pris comme témoins de son unicité. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilma qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allahu Ta'ala, dans le Coran, il a pris comme témoins les anges et les ulama, les savants, comme témoins de son unicité. Ça, les savants disent, ça indique le haut rang des savants. Le haut rang des savants. Également, dans énormément de hadiths, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith que même les poissons dans l'eau, ils demandent le pardon, ils invoquent pour les ulama. Les savants disent dans le même hadith que le savant, il est comme la lune à côté de, il éclaire comme la lune éclaire par rapport au An-Nujum, les étoiles. Donc, il faut avoir cette entière conviction parce que c'est ce qu'Allah Ta'ala nous a enseigné. Si on a une autre conviction, c'est qu'elle n'est pas conforme avec le Coran et la Sunna, et là, c'est grave, il faut y remédier. C'est dangereux pour la personne. Il faut y remédier. Également, si on se pose la question, mais alors pourquoi on dirait que les ulama, pourquoi on dirait que les ulama qui sont mentionnés dans le Coran, c'est forcément ceux qu'on nous dit, Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Muqbal, Al-Albani, Lohaydan, Abdelaziz, Salih Al-Sheikh, Lohaydan, etc. Cheikh Najmi. La liste est très, 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 très longue. Alors la réponse, c'est parce que dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, il enseigne que ces savants, forcément, c'est les savants de la Sunna. Il n'en est pas possible. Le contraire n'est pas possible. Ce sont les savants dont Allah Ta'ala parle. Ce sont les savants de la Sunna. Donc aujourd'hui, toi tu sais ça. Par rapport au Coran et à la Sunna, tu te dis, la référence, ce sont les savants et ce sont les savants de la Sunna. T'as plus qu'à chercher qui sont les savants de la Sunna aujourd'hui. Et là, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas plus facile. En faisant ta recherche, même sur Google, hein, savant de la Sunna, t'auras ta liste. À partir du moment où tu ne seras pas convaincu avec tout ça, ça veut dire que tu ne cherches pas à suivre la vérité, ça veut dire que tu cherches à suivre ta passion, tes passions. Ça veut dire que la vérité ne t'intéresse pas. Tu n'es pas déterminé à accepter le Coran et la Sunna dans ce domaine. Et là, il faut faire une remise en question. Est-ce que je suis prêt à suivre les commandements d'Allah? Est-ce que je suis prêt à suivre les vrais héritiers d'Allah? Est-ce que j'obéis à Allah et à la Sunna? Ou est-ce que J'ai des passions, il y a des choses que, au fond de moi-même, je veux ces choses-là, je les recherche, et c'est ça qui m'intéresse. Et tout ce qui est qui va en sens contraire de mes passions, ce que j'ai dans le cœur, eh ben, je dirais que non, c'est pas comme ça, c'est pas bon, c'est pas vrai. Donc là, il y a une remise en question qu'il faut appliquer. Barakallahu fikoum. Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps sur votre cours pour expliquer ça, mais vous apprendrez aussi, à force de me connaître, que si je parle de quelque chose, c'est que c'est un cas de nécessité d'en parler. C'est qu'il faut en parler. Et c'est important pour tous les élèves, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les élèves, voilà. Taïb. Alors, dans le cours précédent, concernant le comportement, dans notre cours précédent, concernant le comportement, on s'était arrêté au deuxième chapitre. Vous prenez votre ouvrage au tout début, on l'a repris du début, on a terminé le premier chapitre et on est arrivé au deuxième chapitre, les mérites de la science. Un étudiant qui veut connaître, avoir un bon comportement, il doit connaître les mérites de la science, parce que les mérites de la science, entre autres, hein, entre autres, c'est-à-dire parmi les profits à connaître les mérites de la science, il y a que ça va te motiver à avoir un bon comportement. La première chose, c'est que ça va te motiver justement à aller chercher cette science. Et en allant chercher cette science, ça va te donner une sorte de motivation, détermination, en fonction d'avec qui tu vas étudier. Attention, il y a un paramètre fondamental. C'est-à-dire que ta prise de conscience concernant le comportement, ta prise de conscience concernant le comportement, elle se fera en fonction de ton enseignant. Malheureusement. Malheureusement. C'est-à-dire que si tu as un enseignant qui attache une importance capitale, comme c'était le cas du prophète, de ses compagnons, et comme c'est le cas à fond aujourd'hui pour nos grands savants, ils attachent une importance, comme c'est le cas de l'islam. Ils attachent une très très grande importance au comportement. Donc ça sera. Mais il y a des gens, tu vas étudier avec eux. Ils vont faire des cours, ils vont te donner des cours, ils vont t'enseigner, mais le comportement ne sera pas. Non seulement ça ne sera pas une priorité, mais tu ne vas pas sentir les choses dans ton cœur. Tu ne vas pas ressentir les choses dans ton cœur. Et les sciences religieuses, les savants disent, celui qui transmet le savoir, il doit transmettre l'amour de ce savoir aux étudiants, à ses élèves. Il doit transmettre l'amour de ce savoir. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, tu dois transmettre les sciences aux élèves avec ton cœur. Et comme le disent les savants, et je vais vous raconter un récit, un petit récit, comme le disent les savants, quand tu transmets les sciences religieuses avec ton cœur, celui qui parle avec son cœur, il va toucher les cœurs. Normalement, c'est automatique. Celui qui parle avec son cœur, Inch'Allah ta'ala, il touchera les cœurs. Mais si tu as un cœur fermé, tu es méprisant, tu as un cœur de pierre, tu ne toucheras pas les cœurs. À ce propos, il y a le récit, il y a un récit. J'ai oublié, est-ce que c'est Abu Darda ou Abu Dhar, un des compagnons, Naham, Abu Dhar, Abu Dhar, qui a raconté un jour, il y a le fils d'un cheikh, le fils d'un cheikh, qui dit à son père, Abi, pourquoi, quand tu exhortes les gens, tout le monde pleure. Les gens, ils pleurent. Et pourquoi il y a énormément de gens où c'est pas le cas, dont ce n'est pas le cas. Ils ne pleurent pas. Y a rien. Le cheikh lui a répondu, lorsqu'on exhorte les gens avec son cœur, ça touche les cœurs. Mais lorsque on exhorte les gens pour un bien de cette vie d'ici-bas ou pour toute autre, une autre intention, ou alors lorsque ça vient pas du cœur, eh ben ça ne touche pas les cœurs. À peu près dans le sens du récit. Donc avant d'entrer dans notre chapitre, nous avons. On va lire les commentaires. Mashallah, Cheikh Sadio, il nous a fait une liste. Cheikh Sadio nous a envoyé des commentaires. Le premier, Cheikh Mokbel, rahimahullah, al-Wadi'i, rahimahullah, a dit, les débats, les disputes, les polémiques qui amènent à comme quelque chose qui se rapproche de la peur, la colère, quelque chose où on n'est pas dans notre état normal, on peut dire même à la division. Tandis que celui qui a du temps pour mémoriser le Coran, pour également celui qui a du temps pour écrire des livres dans la science, ou alors celui qui a du temps pour connaître la recherche, faire des recherches dans l'étude de la science, celui qui réserve du temps, qui se réserve du temps pour lire la langue arabe, celui qui se réserve du temps pour apprendre l'écriture, du temps, celui qui se réserve du temps, qui consacre hein, du temps à faire la da'wa, le prêche pour Allah, il trouvera que son temps, il est court par rapport à toutes ces choses. Il ne lui restera plus de temps pour les débats et les disputes. Allahu Akbar, parole très très sage de notre cheikh. Puis, Cheikh Sadio nous dit, les savants de la Sunna authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate 16, verset 43, le messager d'Allah sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes, or les prophètes n'ont laissé derrière eux ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science, celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Et l'imam Muslim rapporte dans l'introduction de son recueil de hadiths authentiques, Sahih Muslim, cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, certes, cette science est une religion, alors regardez de qui vous prenez votre religion. Donc il est notre devoir de revenir aux savants lorsqu'on ne sait pas ou lorsqu'on a un doute. Et ce dans tous les domaines. Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, grand mufti du Royaume d'Arabie, président du comité des grands savants d'Arabie. Cheikh Salih Al-Fawzan ibn Abdillah Al-Fawzan, grand savant et membre du comité des grands savants. Cheikh Salih Al-Luhaydan, grand savant et président de la Haute Cour de justice d'Arabie et membre du comité des grands savants d'Arabie. Cheikh Abdullah ibn Abdelrahman Al-Rudayan, savant et vice-président du comité des grands savants. Cheikh Salih Ali Cheikh, savant et ministre des Affaires religieuses. Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Rajihi, savant et membre du comité d'enseignement de l'université de l'imam Saoud de Riyad. Cheikh Ibn Baz, il a étudié chez Cheikh Ibn Baz pendant 40 ans. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, savant, élève de Cheikh Al-Albani ibn Baz al-Uthaymin, Mohamed Al-Aman al-Jami, Hafiz al-Hakimi. Cheikh Salih al-Suhaymi, savant de Médine et donne des cours à la mosquée du prophète. Cheikh Abdel Mohsen ibn Nasser al-Ubaykan, également Cheikh Ubayd ibn Sulayman al-Jabiri, savant et ancien professeur de l'université islamique. Cheikh Mohamed ibn Hafiz al-Madkhali, savant et professeur de l'université de Médine. Cheikh Zayd ibn Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, savant érudit. Cheikh Najmi, Hafiz al-Hakimi, Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Benna, savant de Jeddah et ancien professeur de Cheikh Rabi', et qui est également un des plus grands savants qui est mort dernièrement d'Égypte. Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, savant de Médine érudit dans le Hadith. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Nasser al-Faqihi, Naham, ancien mufti. Ahmed al-Najmi, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Wusabi, savant du Yémen, élève de Cheikh Mokbal, Cheikh Soubeil. Les savants qui ne sont plus de ce bas monde, Cheikh Abdullah ibn Abdillah, Cheikh Mohamed ibn Salih ibn Uthaymin. Il était un modèle savant bien informé de droiture, d'honnêteté, d'engagement et de service désintéressé de cette dunya pour la cause d'Allah. Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, savant érudit très connu pour la science du hadith. Son intérêt pour le hadith et ses sciences est devenu sa grande préoccupation. Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, grand savant du XXe siècle, du début XXIe. Mufti de la région de Jazan, porteur du drapeau du hadith et de la sunna. Etc. 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 Barakallahu fik sur Sadio. Taïb. On va commencer notre lecture. Taïb. Deuxième chapitre, les mérites de la science. Allah exalté soit-il a fait l'éloge de la science, al-ilm, et de ceux qui s'y adonnent. Et à inciter ses serviteurs à l'acquérir et à s'en approvisionner. Dans la pure sunna prophétique, on trouve également les éloges de la science. La science, al-ilm, est l'une des meilleures œuvres pieuses. Pieuse. Elle est l'un des plus méritoires et des plus éminents actes d'adoration. J'entends par là les actes d'adoration surérogatoires. Car elle constitue une forme de djihad dans la voie d'Allah. En effet, la religion d'Allah, puissant et majestueux, repose sur deux piliers. Le premier est la science et les preuves évidentes. Le deuxième est le combat et tout ce qu'il exige matériellement. Ces deux moyens sont nécessaires. Sans ces deux moyens réunis, la religion d'Allah ne peut pas tenir et ne peut pas dominer. Seulement le premier moyen devance le deuxième. C'est-à-dire, le premier est la science et les preuves évidentes. Taïb. Dans cette parole de Cheikh Al-Uthaymin, on va tirer une faïda par rapport au sujet que nous avons abordé hier matin et que nous avons abordé en début de cours également ici. Ce sujet, c'est que regardez, si vous prenez conscience, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, que la science est l'une des meilleures œuvres. Elle est l'un des plus méritoires et des plus éminents actes d'adoration. Ça signifie que tu ne dois avoir aucun doute que par rapport au statut de la science, le shaitan y sera sur ton dos. Le shaitan y sera sur ton dos. Son but à lui, qu'il s'est fixé, c'est que tu n'entres pas au paradis. L'apprentissage de la science, c'est un billet direct pour le paradis. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, ce n'est pas nous. Man salaka tariqan, yaltamis bihi ilman, sahhal Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin vers l'apprentissage d'une science religieuse, hein, Allah Ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc à partir du moment où toi tu prends ce chemin de paradis, ne te pose pas de questions, le diable banni sera sur ton dos. Maintenant à toi d'être vigilant, est-ce que tu vas le voir? Tu vas être capable de discerner ou est-ce que tu ne vas pas être capable? Parce que là c'est pour ta survie. Et là on ne parle pas de la survie physique qui n'est que secondaire par rapport à la survie spirituelle. Lorsqu'on dit ton cœur il est vivant, ton cœur il est malade, ton cœur il est mort, ce sont les trois étapes. Lorsqu'on dit ton cœur, il est vivant, ça veut dire que ta religion est vivante. Lorsqu'on dit que ton cœur, il est malade, ça veut dire que ta religion, elle est malade. Mais lorsque l'on dit que ton cœur, il est mort, ça veut dire que ta religion, elle est morte. Ça, c'est les koffars, les grands hypocrites. Le cœur mort. Mais attention, attention, j'insiste. Attention, nous insistons. Lorsque le cœur est malade, si on ne fait pas ce qu'il faut, on se laisse emballer, on se laisse prendre dans la maladie du cœur, eh ben ça peut finir par la mort du cœur. Ça peut se terminer par la mort du cœur. C'est pour cela que le shaitan, il ne va pas lâcher. Il va travailler, il va travailler, il va travailler. Toi, peut-être, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Au fur et à mesure, si ton cœur, il est malade, tu vas le sentir. Mais au fur et à mesure, tu ne te vois pas partir, il veut te ronger petit à petit ta religion. Non. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils se retrouvent, je suis malade, j'ai une baisse de foi, je tombe dans les péchés, la tentation, et ceci, et cela. Ça, c'est quand le cœur, ça y est, il est malade. Donc, il faut tout faire pour le guérir. Et un des moyens, c'est de se rapprocher d'Allah par les sciences religieuses au vu de leurs bénéfices durant de la science religieuse. Parce que quand tu vas apprendre le tawhid, il faut que tu saches que quand tu vas apprendre le tawhid, en même temps, c'est une lumière et un médicament qui va complètement nettoyer, purifier ton cœur. Donc voilà le rapport entre les sciences religieuses et la maladie du cœur. C'est que les sciences religieuses, elles sont un remède. Parce que parmi les grandes maladies du cœur, tu as l'ignorance. Et dans la science, tu as le remède à l'ignorance. Et le rapport avec la mort du cœur, c'est que Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit, l'ignorance est une maladie mortelle. Mortelle, ça ne veut pas dire, ça y est, t'as plus de pouls, ton cœur il bat plus, t'es mort. Non, ça veut dire que ta religion elle est morte. L'ignorance, c'est une maladie mortelle pour ta religion, pour ton cœur. Tamam? Allah le Très-Haut a dit, est-ce que celui qui fait dévotion, qunut, qui est qanit, au cours de la nuit, celui qui se prosterne et se redresse en prière, a souci de la vie dernière et aspire à la miséricorde de son Seigneur. Est-ce que celui qui fait dévotion, cours de la nuit, au cours de la nuit, se prosterne et se redresse en prière, a souci de la vie dernière et aspire à la miséricorde? La phrase interrogative ici nécessite un comparant. Il est ici sous-entendu, en le mettant en évidence, la phrase serait, est-ce que celui qui fait dévotion au cours de la nuit est-il pareil à celui qui n'accomplit pas ses œuvres, qui n'est pas en dévotion. Naam. Subhanallah. Combien de fois Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait la distinction, il compare entre telle chose et telle chose pour nous, en réalité, nous éduquer, nous instruire sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Par exemple, c'est complètement dans notre contexte ici, des bienfaits, des mérites de la science. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Celui qui a de la science, il n'est pas au même niveau sur celui qui n'a pas de science, de connaissance. Ici, on nous dit, est-ce que celui qui fait dévotion au cours de la nuit se prosterne et se redresse en prière, a souci de la vie dernière et aspire à la miséricorde de son Seigneur, il est au même statut que celui dont ça n'est pas le cas. Wallahul musta'an. On doit comprendre de là qu'on ne doit pas faire partie, on doit tout faire pour ne pas faire partie de la deuxième catégorie, mais plutôt faire les efforts pour se rapprocher le plus possible d'Allah par cette première catégorie qui est de. Pendant que les gens dorment, pendant que les gens sont endormis, le monde entier fait dodo, toi, tu es en adoration à ton Seigneur, 24 sur 24. 24 sur 24. Alors, il se peut qu'on te dise, tu ne peux pas 24 sur 24 parce que tu dors. Tu répondras, avant de dormir, je me suis endormi sur le tawhid. Walhamdulillah, si je meurs, je meurs sur le tawhid. Comme l'ont dit les savants, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si avant de te coucher, tu fais les invocations du tawhid, bismikallahumma amutu wa ahya. Etc. Parmi les invocations du tawhid, avant de dormir, Inch'Allah ta'ala, si tu meurs, tu meurs sur le tawhid. Et avant de dormir également le soir, tu fais la dua du repentir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Tous les matins, tous les soirs, Allah Ta'ala, il te pardonne tout. Ça, c'est la dua, l'invocation la plus connue concernant le repentir. Vous devez l'apprendre par cœur. Oh Allah, Allahumma anta rabbi, tu es mon Seigneur. Allahumma anta rabbi, tu m'as créé. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, tu m'as créé, wa anta rabbi, tu es mon Seigneur, wallahu al-musta'an, wallahu al-musta'an. C'est toujours quand on veut citer quelque chose, que pourtant on vient de vous la citer, hein. Donnez-moi deux petites secondes, inshallah ta'ala. Une petite seconde. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est gentil, Cheikh. Cheikh Sadio. Super. Wallah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé. Je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tout bien fait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, en effet, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Jazakallah khair, Cheikh Sadio. On va le transmettre pour les élèves. Je transmets pour les élèves qui veulent. Voilà, j'ai transmis. Pour l'admin, essaye de transmettre sans le nom de l'étudiant. C'est Cheikh Abou Youssouf, c'est ça? Cheikh Abou Youssouf. Barakallahu fik. Taïb. Tamam. Tamam. Donc n'oubliez pas. Mashallah, super. Barakallahu fikum. Super. Il faut la dire tous les jours, ça. Ceux qui ne connaissent pas, apprenez-la. Dites-la une fois le matin, une fois le soir. Mashallah. Barakallahu fikum. Voilà, sur le chat, vous l'avez. C'est pour vous, hein. C'est pour vous. C'est très important. Taïb. Alors. En effet, Cheikh Barakallahu Fik. En effet, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, en effet, celui qui fait dévotion au cours de la nuit se prosterne et se redresse, a un souci de la vie dernière et aspire à la miséricorde de son Seigneur, est-il pareil que celui qui se montre trop orgueilleux pour obéir à Allah? La réponse est qu'ils ne sont pas pareils. En ce qui concerne celui qui fait dévotion, aspire à la récompense d'Allah et redoute la vie dernière, a-t-il agi sans science ou par ignorance? La réponse est qu'il a agi avec science et connaissance. C'est pourquoi Allah Ta'ala a dit juste après, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Vous avez vu? Vous avez vu? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les hommes doués d'une intelligence profonde en sont conscients. Attention, juste une info pour vous, une faïda. Lorsque On voit souvent les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Ça comprend les femmes aussi. Hein. La femme est inclue dedans. Taïb, si elle n'est pas inclue, on aura une preuve qui dit que c'est spécifique que pour les hommes ou que pour les femmes. D'accord? Mais quand on mentionne les hommes en général, ça comprend la femme. D'accord? Celui qui ne sait pas ne saurait être assimilé à celui qui sait. De la même manière qu'on ne saurait assimiler le mort au vivant. Ça veut dire qu'il y a un grand, grand, grand fossé, une énorme différence entre les deux, qui sépare celui qui sait, celui qui ne sait pas. Le mort au vivant, ni le sourd à celui qui entend, ni l'aveugle au clairvoyant. La science, l'ilm, est une lumière grâce à laquelle l'homme suit la bonne direction et sort des ténèbres vers la lumière. Subhanallah. No comment. Ça parle de lui-même. Hein. La parole, elle parle, elle est claire. Elle parle d'elle-même. Par la science, Allah élève qui il veut d'entre ses serviteurs. Allah élève de plusieurs degrés ceux qui d'entre vous ont la foi et ceux qui ont reçu la science. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte que c'est Allah Ta'ala qui le dit? Est-ce qu'on se rend compte qu'Allah Subhanahu Ta'ala, il élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science? À partir du moment où on prend conscience de toutes ces paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, appuyées par la parole d'Allah et de son messager, franchement, on doit avoir une vision de la science qui est, c'est ce qu'il y a de plus important en réalité. Je dois me consacrer à ça plus que, comme le disent certains savants, plus que de manger et de boire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de foi, ça va leur sembler bizarre. J'ai plus besoin de science que de manger et de boire. Alors, parce que je vais vous faire une petite parabole pour mieux vous faire comprendre. Et c'est bien qu'on ait expliqué le mécanisme du cœur précédemment, on ait parlé du cœur, ça tombe bien, parce qu'en fait, la meilleure nourriture du cœur, c'est la nourriture spirituelle. C'est pas la nourriture, le manger, si vous voulez, hein, les aliments. C'est pas cette nourriture-là qui est la plus importante. C'est la nourriture spirituelle. C'est le bagage spirituel. Et c'est quoi? Ça passe par quoi? Par le ilm. Alors il aura son effet sur ton cœur et ça te fera monter la foi si tu le pratiques. Parce que si tu ne le pratiques pas, ça ne va pas entrer dans ton cœur. Ta main, si tu ne pratiques pas cette science, c'est une lumière qui va entrer dans ton cœur. Mais au moment où elle entre dans ton cœur, tu ne vas pas la pratiquer, la lumière elle va s'éteindre. La lumière elle va s'éteindre. Taïb. Celui qui ne sait pas ne saurait être assimilé à celui qui sait de la même manière qu'on ne saurait assimiler le mort au vivant, ni le sourd à celui qui entend, ni l'aveugle au clairvoyant. La science, l'ilm, est une lumière grâce à laquelle l'homme suit la bonne direction et sort des ténèbres vers la lumière. Par la science, Allah élève qui il veut d'entre ses serviteurs. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, plutôt Allah élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science en ilm, le ilm. C'est pourquoi on constate que les gens de science sont loués. Ils sont bénis, ils sont loués. Chaque fois qu'ils sont mentionnés, les gens leur font des éloges. C'est là une forme d'élévation qui leur est accordée dans ce monde. Quant à l'au-delà, ils s'élèveront de plusieurs degrés en fonction de la prédication dont ils se sont chargés et de leur mise en pratique du savoir qu'ils avaient acquis. Allahu Akbar. Le vrai adorateur est celui qui adore son Seigneur de manière clairvoyante et en se fondant sur ses preuves évidentes. Alors là, on a une grosse, grosse, grosse faïda fondamentale. Il y a des gens qui peuvent dire, de toute façon, moi peut-être que j'étudie pas, mais je suis un adorateur. Regardez la réplique ici de Cheikh Al-Uthaymeen à cette ambiguïté. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, le vrai adorateur, C'est lui le vrai adorateur. Le vrai adorateur est celui qui adore son Seigneur de manière clairvoyante. Ça veut dire quoi, clairvoyante? Avec science. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore Allah avec science. Pour adorer Allah avec science, il n'y a pas 36 chemins. Il faut apprendre et pratiquer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Telle est la voie du prophète. Donc ça, ce n'est pas la voix de un tel ou un tel, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, telle est ma voix, hadihi sabili, telle est ma voix, ad'u ilallahi ala basira, ana wa man ittaba'ani. Telle est ma voix, j'appelle les gens à Allah dans la clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Gloire à la transcendance d'Allah, je ne suis pas du nombre des associateurs. Ainsi, par exemple, l'homme qui fait ses ablutions, tout en sachant que la manière dont il procède est conforme à la prescription de la charia, est-il comparable à celui qui fait ses ablutions par imitation de son père ou de sa mère? Alors attention, ici je vais relire et ensuite je vais vous donner une grosse, grosse, grosse faïda. S'il vous plaît, entrez ça dans votre cœur. Entrez ça dans votre cœur. C'est un cours très important aujourd'hui. On va répéter. Ainsi, par exemple, l'homme qui fait ses ablutions tout en sachant que la manière dont il procède est conforme aux prescriptions de la charia, ça veut dire celui qui pratique la religion, en étudiant la religion, lui, il va suivre. Qal Allah, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit, les savants ont dit. Lui, sa religion, elle est basée sur la législation d'Allah. Mais le shirk, il nous dit rhétoriquement. Rhétoriquement, est-ce qu'il est comparable à celui qui fait ses ablutions par imitation de son père ou de sa mère? C'est-à-dire que celui dont la religion, elle n'est pas basée sur les preuves, mais dont la religion, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, les ulama, les compagnons, mais plutôt sa religion, lui, tout ce qu'il fait, oh nous, chez nous, on fait comme ça. Nos parents, ils font comme ça. Nos grands-parents, ils font comme ça. Dans notre pays, on fait comme ça. Ils ne sont pas comparables. Parce qu'il y en a un, il adore Allah aveuglément, sans science. Et il y en a un autre, il adore Allah comme Allah Ta'ala nous l'a demandé. Et pour en ajouter un peu, si tes ancêtres se sont trompés, tu vas donc te tromper aussi? Alors que on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Allah Ta'ala dit à son propos, ceci est une révélation. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ceci est une révélation. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion. Donc là, tu es dans la bonne voie, lorsque tu pratiques cette méthode, cette voie du prophète. Mais si tu pratiques une autre méthode en suivant tes ancêtres, quels qu'ils soient les gens de ton pays, alors là, tu as toutes les chances d'être à côté, de t'égarer, de ne pas adorer Allah comme il se doit avec les preuves. Et là, on risque de rendre des comptes le jour où on sera devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que beaucoup parmi vous ont pris conscience de l'importance de la science. J'espère que les élèves aujourd'hui ont pris conscience, si ce n'est pas déjà avant, hein, c'est encore mieux si c'était avant, conscience de l'importance de la science. Et comme quoi, vous êtes sur un chemin qui mène au paradis, vous êtes sur un chemin qui va être une lumière dans votre cœur. Cette lumière, vous pourrez la transmettre. Vous pourrez donner un peu de votre lumière à tous ceux que vous allez rencontrer. D'abord, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, et ce n'est pas une question de je connais la langue arabe ou je ne connais pas la langue arabe. Les savants disent, ce que tu apprends, cette lumière que tu as dans ton cœur, tu dois la transmettre à tes parents, à ton frère, à ta sœur, un petit comité à la maison, les voisins. On n'a pas dit de faire une grande darwa sur YouTube, mais la darwa, elle est obligatoire pour celui qui connaît quelque chose avec ses preuves et qui est capable de le transmettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Balliru anni walau aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, pardon, ont dit à propos de ce verset, ils ont dit, à propos de ce hadith, pardon, ils ont dit, ça veut dire que celui qui connaît quelque chose, il doit faire la dawa. Naam. Maintenant, je répète, attention, condition, c'est pas la grande dawa, je sors de nulle part et je suis un grand prêcheur. Non. Mais c'est la dawa des gens qui sont nouveaux dans l'islam, des gens que tu connais, qui sont ignorants, qui connaissent pas. Tu les invites à la maison et tu leur fais un petit rappel de ce que tu connais, ta sœur, ton frère, tes parents. Tu commences à connaître le tawhid, vas-y, parle-leur du tawhid. Et nous, on est là. Et nous, on est là, on est derrière vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin des questions, des ambiguïtés, si vous avez besoin d'aide dans cette petite transmission, chacun transmet à son niveau. Le ami, qui est le statut, l'étudiant débutant, il est pratiquement comme le statut du ami, du gens de la masse. Donc, il transmet selon son niveau. Tandis que celui, chacun, il transmet à son niveau. Vous avez l'ami, vous avez l'étudiant débutant, il transmet à son niveau. Et ensuite, vous avez l'étudiant intermédiaire, il transmet à son niveau. Vous avez l'étudiant confirmé, le cheikh, il transmet à son niveau. Et vous avez les savants qui transmettent à leur niveau. Voilà ce que disent les savants. Chacun, il transmet à son niveau. Et la preuve, c'est la parole du prophète. Balliru anni walau aya. Transmettez de moi. Ne serait-ce qu'un verset. Wafik barakallah, Cheikh Abu Yusuf. Wa iyek, Cheikh Abu Yusuf, avec plaisir. Tamam. Tamam. Également, ça a été le cas de Othman ibn Affan, qui médite beaucoup sur l'au-delà, le verset le concernant que vous avez évoqué. Barakallah fik, Cheikh Abu Yusuf. Sont-ils égaux ceux qui ne savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence rappellent. Barakallah fik, Aoustef. Fik barakallah, Cheikh Bilal, Cheikh Abu Yusuf et Cheikh Sadio. Hayakumullah. Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions, on est à votre service. Si vous n'avez pas de questions dans votre classe, on se donnera rendez-vous à dimanche, Inch'Allah. N'hésitez pas, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos questions, on reste disponible dans les groupes, hein. On reste à votre disposition. Barakallahu fikum. وسبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وفيك بارك الله شيخ ساديو avec plaisir à toi aussi وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin à toi aussi, Cheikh Sadio. Hayak Allah.